Salut tout le monde, Angle Mort, 5 mai, on garde le cap, des magasins qui réouvrent à Québec, bref, ça bouge du bon bord, espérons que ça va rester dans cette tendance-là, en tout cas d'être négatif, je vois pas ce que ça donne, d'être imbécile heureux non plus, mais d'être positif, je pense que c'est un plus, alors je vous le souhaite, moi je le suis. Question de Sonia. Qui est pour mon podcast aujourd'hui. Allô, Marc, question pour Angle Mort. J'adore quand vous me soumettez des questions. J'adore ça. Ou des commentaires, peu importe. Excusez-moi de ne pas répondre. Ben oui, je réponds à tout le monde. Parce que j'apprécie, je réponds toujours à tout le monde. Tout le monde qui m'écrit, j'ai une réponse, puis c'est pas une réponse automatique, puis c'est moi qui s'occupe de tous mes médias sociaux. Je fais juste dire que des fois, vous m'écrivez des trucs plus cossus, puis je les prends pas nécessairement comme sujet le lendemain, mais des fois, deux, trois jours plus tard. Alors, bref, c'est toujours très apprécié. Allô Marc, question pour Angle Mort. Je suis fan d'humour québécois depuis la nuit des temps. J'ai 57 ans. Et dans l'autre vie, j'allais voir un show par mois environ. Donc, c'est vraiment Sonia, très crinqué. Je suivais tout ce qui se faisait de nouveau. J'aimais découvrir la relève. Bref, tu vois le tableau. Je suis ta carrière depuis Testostérone, imagine. Donc, dans la nouvelle vie, je suis inondé de lives et de vidéos de toutes sortes des humoristes. J'aurais pas assez de 24 heures d'une journée pour écouter ça. Je trouve que ça devient un peu intense sur mes réseaux sociaux, toutes ces vidéos. Alors, ma question, vont-ils brûler le marché? Est-ce que la loi de l'offre et la demande s'applique dans ce cas-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a trop d'offres? Ça va faire baisser la valeur du produit. Merci, bonne journée, Sonia. Excellente question, Sonia, qui fait sortir mon côté d'ancien gérant d'artiste qui s'est toujours intéressé à la business de l'humour, entre autres. C'est celle que je connais. Je ne connais pas beaucoup les autres. Je ne peux pas commencer à faire mon smart concernant la musique, par exemple. Tu sais, je veux dire, il y a des données de base, là, mais les rouages de ça, je les connais moins. Puis tout ce qu'il reste aussi, théâtre et autres, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a une raison pour laquelle c'est pas pareil. Il y a une raison pour laquelle la musique, le théâtre, le cinéma et l'humour, c'est des choses qui sont pour les trois premiers... avec une dynamique semblable et pas pour l'humour. La différence, c'est qu'il est impossible de faire de l'humour comme un one-way. C'est-à-dire que Andy Nolman, qui est le gars qui a fondé Just for Laugh, le pendant anglophone de Juste pour rire, disait « L'humour, c'est comme jouer au baseball, c'est que ça prend un lanceur et un receveur. » En un mot, tu peux faire une excellente chanson, aller la jouer dans un bar, les gens jasent entre amis, puis à la fin, ils trouvent que ton band était génial. Ils t'ont à peine écouté, mais l'ambiance était là, puis c'était trippant. Au théâtre, c'est encore plus flagrant, parce que une répétition au théâtre, puis la générale devant une salle vide, est en tout point identique à la représentation devant un public. Les comédiens au théâtre, ils s'en claquent de ce qui se passe dans la salle. C'est-à-dire qu'ils vont préférer sentir que le show est apprécié. Ce ne sont pas caves et moi non plus. Mais en rien, ça va altérer parce que vous comprenez, c'est scripté. C'est je dis une chose, tu m'en réponds une autre. Après ça, il y a le troisième qui rentre par la droite. Alors, il n'y a pas d'influence là-dessus, mais c'est impossible d'écrire un numéro d'humour qui est parfait le jour. Bon, c'est pas vrai, je recommence. C'est tout à fait possible d'écrire un numéro d'humour qui est parfait à sa version 1, qui n'a pas besoin d'être rodé, mais c'est plus rare, c'est très difficile. Moi, quand j'étais gérant de François Morency, il animait des galas juste pour rire. Il faisait des numéros d'ouverture qui n'avaient virtuellement pas été cassés à nulle part. Mais lui, puis ses writers, moi, des fois, on le lisait, on trouvait ça très solide. Ça avait été travaillé pas mal plus que juste un numéro que tu dis « Ah, oh, c'est pas grave, anyway, je vais l'essayer dans un bar, puis je corrigerai au fur et à mesure. » Là, il fallait qu'il arrive le plus près possible. Plein d'humoristes de la génération avant Morency-Anctil rodait à peu près pas. Daniel Lemire rodait pas comme tel de spectacle. Cette gang-là, où il n'y avait pas beaucoup d'humoristes encore, rodait pas beaucoup les spectacles. Ça partait pas là, pendant une tournée de temps, etc. Puis plus un humoriste avance en carrière, moins il rode. Moi, j'ai vécu avec Jean-Michel Anctil du rodage à Magog avant d'arriver à Montréal avec quelque chose comme 50 shows en l'air de la cravate. Puis c'était intéressant de voir que souvent, le show numéro 1 ressemblait en tout point au numéro 50 de rodage. Donc, le rodage n'était pas exploité tant que ça. Ça arrivait quand même assez près. Ça fait que ça, c'est quand même des trucs qu'il faut mettre en prémisse là, pour la question à Sonia. Là. Donc, quand tu fais de l'humour, tu es en action-réaction. Quand tu fais à peu près toutes les autres formes d'art, c'est pour ça qu'on dit souvent que l'humour, ça s'apparente beaucoup à la publicité. Alors là, évidemment, les humoristes sont pas contents, mais il reste que dans la dynamique, comment on monte ça, ça ressemble à de la pub. C'est-à-dire qu'une pub, pour être efficace, doit rejoindre l'auditeur, le téléspectateur, le passant dans la rue, si c'est de l'affichage, etc., de façon extrêmement efficace. Alors que de la peinture, je suis désolé, mais je me souviens pas d'avoir entendu dire que Picasso faisait des peintures, puis que quand il voyait que le monde préférait ça bleu, le lendemain, il refaisait, puis il enlevait du rouge, puis il mettait du bleu. Ça marche pas de même. Je connais aucun poète. Émile Néligan disait pas « Ah, que la neige a neigé! » Ouais, le monde, il trouverait ça plus drôle si « Ah, que la pluie a plu! » Ben non, c'est comme moi, mon poème, il est de même. Vous l'aimez ou pas, c'est tout. C'est l'écrasante majorité. L'art contemporain, c'est la version la plus intense de ça. L'art contemporain, c'est même parfois, c'est irritant. Tu sais, des bols de toilettes plaqués or, tu sais, des affaires qui font que tu fais comme, coudonc, est-ce même de l'art? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une démonstration de talent derrière de tout ça? La réponse, c'est non. Mais il y a une démarche. Puis là, créer de la controverse. Pourquoi? Parce qu'on est à l'opposé de quelque chose qu'on cherche d'avoir un effet. En humour, il y a un effet désiré qui vient avant l'œuvre elle-même. Je ne peux pas mieux vous l'expliquer. Donc, on se retrouve avec la question à Sonia. C'est qu'actuellement, il y a un paquet d'humoristes qui sont en démonstration virtuelle. Il y a un article très intéressant là, dans le journal aujourd'hui. Je pense que c'est dans la presse sur Arnaud Soli. Qui a fait et qui fait encore des talk shows, puis ça a l'air que c'est super bon. Moi, j'ai rien vu de lui ni des autres, là, j'ai pas regardé ça encore, mais on me dit qu'il est très, très bon, puis tu sais, lui, puis Mathieu Dufour, l'alias Matt Duff, c'est les deux qui se sont fortement démarqués pendant les dernières semaines sur Instagram à faire des talk shows quotidiens le soir vers 8-9 heures. Puis qui ont reçu vraiment, tu sais, je veux dire, ils ont augmenté leur following de genre 50 000 en quelques semaines. Ça fait que, tu sais, c'est des succès clairs. Maintenant, comme d'habitude, pour un succès, il y a 10 moyens puis 154 échecs. J'invente la moyenne, mais peut-être pas loin de la réalité. Donc, ce à quoi il faut s'attarder, c'est ceux qui ont décidé qu'ils prenaient de la place virtuellement. Puis qui mettaient leur présence, puis leur humour, jusqu'à temps que Sonia pose la question, « Sont-ils en train de me gazer? » Et là, je vais y aller d'une hypothèse seulement, parce que c'est un cas un peu spécial, il n'y en a jamais eu autant, puis il faudra voir quel effet que ça a, parce qu'il faut voir aussi, il faut pondérer ça avec la capacité psychologique puis la disposition intellectuelle des gens qui reçoivent ça, c'est-à-dire... Beaucoup de monde ont beaucoup plus de temps que d'habitude. Donc, Sonia, probablement qu'elle ne se serait jamais plaint, entre guillemets, de cette réalité-là si elle avait son horaire normal ou est-ce qu'elle a 30 minutes, une heure par jour, gros max, à accorder à ce type de vidéos-là. Là, peut-être elle a plein de temps. Finalement, à un moment donné, elle a été boulimique de ça. Puis là, elle finit par se poser la question, « Sont-ils en train de me gazer? » Mon hypothèse, c'est la suivante, c'est que ça ressemble anyway en version concentrée à la vraie vie. C'est-à-dire que si tu fais juste proposer des affaires qui rejoignent très peu de monde, il est très possible que ça donne juste rien. Je crois pas que ça nuise, mais ça donne rien. Mario Tessier fait beaucoup de vidéos des personnages qu'il faisait quand il faisait les grandes gueules. Puis j'ai vu quelques trucs, puis il y en a qui c'est très bon, il y en a d'autres c'est ordinaire. Puis c'est normal, c'est dans un contexte où à quelque part tu allumes ta caméra, tu pars, etc. Puis le gars surfe sur le fait qu'il est bon pour incarner un personnage, il imite plein de monde, telle affaire. On peut se demander si Mario marque des points en faisant ça ou s'il fait du surplace. Moi, je pense que dans la mesure où ce qu'il fait, c'est bon plus que mauvais, ce qui semble être le cas, ben à ce moment-là, il garde un contact avec son public, puis il y a quelque chose qui se passe, puis quand il va ressortir, ben probablement que les gens l'auront vu. En contrepartie, je pense à Dom Pack, qui fait rien sur Internet comme tel parce que ça le branche pas en tout, puis on a eu la discussion. Puis je me dis, s'il n'est pas motivé à le faire et que c'est déjà, depuis son dernier show, un très bon vendeur de billets, le gars a vendu 200 quelques mille billets, il n'est pas à la recherche de se créer un public, puis il ne se demande pas s'il y a une opportunité là-dedans. Donc, mon premier critère, ce serait de dire, si vous n'avez pas vraiment une idée le fun que vous trouvez tripante à faire, moi, je me lève le matin, là, je me couche le soir, puis j'ai hâte de vous parler. Mon podcast, je vois les chiffres monter, c'est hyper stimulant, puis j'aime ça faire ça dans la vie. Échanger des réflexions, puis discuter, puis arriver à essayer d'avoir un angle original, d'où le titre du podcast, qui, encore une fois, est une idée d'Yann Thériault, je dois le souligner. Ça fait que moi, je pense que c'est une très bonne piste pour moi. Qui va donner quoi après? Ben ça, tu t'en occupes pas. T'es pas pour tout le temps faire des affaires juste parce que tu penses que ça va donner de quoi ou de pas le faire en te disant « anyway, ça donnera rien ». À un moment donné, il faut que tu fonces. Que c'est dans n'importe quoi, s'il y a quelque chose qui te passionne, tu le fais. Au pire, tu chantes dans la douche, tu sais, mais tu chantes. Ça fait que là, ça, c'est le premier degré. C'est quand Dom m'en a parlé, il dit « moi, il dit je file pas à faire de quoi on me propose de le faire, puis je sais pas, je trouve que ce serait comme si j'essayais d'embarquer dans une vague, mais un petit peu, bon, blablabla. » Puis je souscris totalement. S'il était très peu connu, ben là, peut-être que je serais plus sévère dans mon critère, puis je dirais, ça vaut peut-être la peine que tu te lances un peu, ne serait-ce que de faire un laboratoire avec ça. Tu vas peut-être trouver, tu sais, tu as une audience particulière de ce temps-là, tu pourrais peut-être trouver un public, puis apprendre de ça, tu sais, comme moi. Moi, je démarre un audio podcast qui s'appelle Angle Mort. Je vois que la formule est suffisante, dans le sens que techniquement, c'est juste parler dans mon iPhone, mais le son est bon. Tu sais, j'apprends beaucoup de choses. Après ça, je tombe sur YouTube, je prépare ma rentrée vidéo, j'achète ma caméra. Pourquoi j'ai acheté une caméra et tout? Parce que j'avais commencé à faire deux Facebook Live. La qualité n'était pas là. Il manquait quelque chose. Le vidéo impose de quoi? Mais ça, je l'ai toujours bien appris en le faisant. Ça fait que toute la gang d'humoristes qui actuellement inonde Internet à coup de présence vidéo, ben je pense qu'à quelque part, ils ne peuvent pas perdre sur cet élément-là. C'est sûr que tu apprends quelque chose, mais toujours faut-il que tu le fasses puis qu'il y ait un réel enthousiasme parce que ça se communique. T'sais. L'autre affaire, c'est ça se peut-tu que, comme Sonia disait, qu'ils brûlent le marché, entre guillemets. Ça se peut-tu que tout à coup, on se mette à être comme gazés? On peut-tu avoir une overdose de ça? Ben ça, il faut faire attention. Parce que ce qu'on appelle souvent une overdose, c'est une overdose momentanée. Mais il reste qu'après coup, il y a des gens de qui on se souvient, puis il y a des gens de qui on se souvient juste pas. Puis c'est ce qu'on appelle être top of mind en marketing, là, c'est-à-dire quand je pense à du savon, je pense à Tide. Ça veut dire que je suis top of mind. La première affaire de savon à lessive qui me vient en tête, c'est Tide. Ben, il y a une raison. Soit que j'en ai tout le temps acheté, soit que j'ai vu ma mère faire son lavage avec ça quand j'étais petit, soit qu'ils m'ont inondé de pubs, soit que ma voisine, elle a un toc puis elle me parle de Tide à chaque fois que je la vois dans le... Tu sais, tu comprends, peu importe, il y a une raison. Ça n'apparaît pas dans ton cerveau de même. Ça fait que les gens qui aujourd'hui sont en train de faire des vidéos puis qui rejoignent un certain public, à quelque part, ils imprègnent quelque chose. Si ça a le malheur d'être bon, je crois que ça peut juste être un plus. Parce que si ça a le malheur d'être mauvais, ben anyway, ils se feront pas suivre. Je pense pas que Sonia se sent envahie de gens qu'elle trouve plate. En tout cas, c'est pas ce qu'elle a écrit. Elle se trouve envahie en se disant « j'ai plus assez de temps pour un catalogue d'humoristes, de relève, etc. » que normalement, pour les voir, ben, on s'en allait dans les bars voir des soirées d'humour comme la Taverne Grande Allée où j'animais une fois par mois à Québec. C'était une occasion. Écoute, à la fin, on était sur une lancée. J'espère savoir partir derrière ça parce que c'était plein, puis c'était hot au bout. C'était vraiment des soirées là, comme genre. Moi, j'ai trippé comme jamais. Fait que le monde qui voulait aller voir ça, il allait là. Mais en même temps, t'imagines, on pouvait recevoir 70 personnes. Là, tu peux être 100 000 dans le cas de Soli ou ben de Mathieu Dufour. Il y avait vraiment des codes d'écoute de Canal Z, là, tu sais. Ça fait qu'en un mot, c'est que si ce que tu fais, c'est bon, actuellement, tu rejoins juste plus de monde. Est-ce qu'après ça, tu peux t'être nuit ou aidé parce qu'il y avait tellement une espèce d'embouteillage? J'ai tendance à penser que non. Je pense que le critère numéro un, c'est si ça te tente puis si tu as une idée originale de te mouiller, je vois pas où tu peux perdre. Parce que moi, je l'ai vécu, je l'ai fait deux fois, j'ai pas fait 100 fois, je l'ai fait deux fois, j'ai fait... Il y a tout de suite une réflexion qui est venue, non, ça prend une qualité technique au-delà avant de me lancer. On va aller chercher l'équipement nécessaire. Ça coûte pas cher de toute façon. On passe un peu de temps à magasiner sur YouTube. Le monde indique que tu devrais ci, ça, blablabla. Le jeu est joué. Finalement, tu t'es jamais brûlé. Tu n'as même pas le temps. Ça fait que ça, c'est la première affaire. Deuxièmement, qu'il y ait beaucoup de compétition. Bien ça, Sonia, ce sera peut-être mon dernier point. C'est de dire, rappelle-toi à quel point, avant que tout arrête, la compétition en humour était hallucinante. Hallucinante. L'humour se porte admirablement bien. En partie, je vais vous caler quelque chose. Je vais vous caler quelque chose que dans le milieu, c'est relativement connu, mais moi, j'en fais une théorie puis même une affirmation. L'humour en général doit énormément à Mike Ward. Pour deux raisons. La première, c'est sous-écoute. Sous-écoute a créé une catégorie québécoise qui n'existait pas, ou du moins pas en nombre suffisant, qui s'appelle des comedy nerds, c'est-à-dire des crinqués d'humour, qui connaissent l'humour, qui regardent l'humour sur toutes les plateformes, dans plusieurs langues, dans différents formats, de plein de sortes, etc. Ça existait, mais vraiment là, dans les sous-sols. Et Sous Écoute a pas juste fait sortir au grand jour les comedy nerds, mais en a créé d'autres. Ça, là, ça a eu un impact réel. Puis je l'ai vu le jour où je suis allé à la salle à Berousseau, puis que moi, je suis Mike depuis le début. Écoute, ça fait 20 ans là, maintenant qu'on est chum ensemble. Là. On a commencé ensemble à Testostérone, là, c'est pas compliqué. Puis j'ai vu Mike qui, comme tout le monde, vieillissait avec sa clientèle, puis tout à coup, à la salle à Berousseau, ça avait l'air tous des étudiants d'université. Puis quand il a demandé qui écoute Sous Écoute, 80 % ont levé la main. J'ai fait, c'est un miracle médiatique, c'est 100 % à cause de lui. 100 %. Donc, il a créé une espèce d'engouement pour l'humour que toute la relève a profité. Et deuxièmement, c'est encore de sa faute, c'est la création du Bordel à Montréal, qui est devenu le premier comedy club depuis le temps des cabarets, là, ça, à Rue-Saint-Jean à Québec, puis Dominique Michel, puis Denise Filiatro, puis toute cette affaire-là des années 50. Il a recréé un bar qui fait de l'humour 7 jours sur 7 et qui a donc permis à une relève, principalement à Montréal, de roder ses affaires, de s'exposer, d'avoir une place pour s'exprimer, travailler son matériel, et même les plus chevronnés, où c'est devenu que de faire le bordel, ben tu te prépares à quelque part, puis c'est aussi stressant que de faire un gig à Juste pour rire à l'époque, parce que même si c'est en dessous du radar, il n'y a pas de caméra, il y a un standard, le mot se passe, si t'es ordinaire, ça va se savoir si t'es bon aussi. Ça fait que je suis désolé, mais Mike, bien malgré lui, a énormément apporté à l'effervescence dans l'humour avec une seule personne. Le bordel, c'est pas juste à lui, mais il en est quand même relié. Il fait partie de ceux qui ont embarqué tout de suite à l'initiative de Martin Petit. Donc, c'est les 5-6 gars qui sont là, qui sont à remercier. Mais Sous Écoute, ça, c'est complètement lui, hein, puis ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait que vraiment, si aujourd'hui on regarde l'effervescence de l'humour, c'est beaucoup lui qui en a été un peu, si tu veux, l'étincelle. Puis donc, pour conclure, Sonia, c'est que ta question super intéressante, est-ce qu'il n'y a pas, à quelque part, une overdose? Bien, cette overdose-là, elle existait déjà, scène, bar, etc. Ça ne semblait pas nuire à personne, ça aidait à ceux qui sont bons, ça nuisait à ceux qui l'étaient moins, pas mal comme dans la vraie vie. Puis je pense qu'Internet, j'espère avoir été clair sur comment moi j'envisagerais ça, bien, comment je l'envisage d'ailleurs, je ne suis pas dans un registre humour actuellement, mais mon émission, mon podcast vidéo va être pas mal plus rigolo. Avec le temps, je le vois, là, vers où ça va s'en aller. Ça va être un grand mélange de ce que je fais en général. Ça fait que je pense que si t'es craqué de ton projet, que t'aimes l'idée de le faire, je vois pas pourquoi tu le ferais pas. Puis ceux qui vont embarquer quand la roue va recommencer à tourner, ben auront eu une présence dans la tête des gens qu'ils ont suivis qui risquent de se transférer dans peut-être réattirer des gens plus rapidement. C'est ça mon avis. Bonne journée tout le monde, merci de m'écrire. Salut Sonia.